Attention, ok, 1, 2, 3. Anne-Line et Monsieur.
Une émission de Anne-Line et Monsieur.
Ok. Bah, non mais attends, comment on fait? Parce que là on n'a pas prévu de musique, ni rien.
On se dit... ouais, on se dit ce qu'on veut, quoi.
Anne-Line et Monsieur.
Une émission de
Pierre.
Anne-Line et Monsieur.
Et Madame.
Un mardi sur deux sur Jet FM
91.2
et toujours
en direct. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes bien sur Jet FM. Il est 22h30 et nous ouvrons ce soir cette deuxième émission de Anne-Line et Monsieur. Nous reprenons les mêmes mots que la dernière fois, soit latex, pince à glaçons, cornemuse, ou en ce qui me concerne pour cette narration, les trois points de départ à une longue et erratique digression. La seule certitude que j'ai, ou du moins le seul point de départ, c'est que j'imagine une histoire qui commence en 1758. Je voudrais qu'elle se passe en 1758. Pourquoi en 1758? Parce que l'autre jour, j'étais dans un bar. Et une fille m'a raconté que son père, qui était né au Japon, avait eu une erreur sur sa carte d'identité. Plutôt que 1958, il était né en 1758. On lui avait rajouté deux siècles, comme ça. Pouf. Dans ma tête, il est tout de suite devenu une sorte de samouraï amputé par le futur. Avec cette grande armure toute coquée, sombre, rayée aux côtes, comme celle d'un grand cochon rouge. Des côtes massives. Sur fond noir, entre le scarabée et le porc, avec une plume sur le casque. Vous voyez ? Bon. Donc, on est en 1758. À cause de cette histoire qu'on m'a racontée dans un bar. Elle me racontait ça parce qu'on parlait des erreurs administratives. Je lui racontais que, par exemple, moi, je suis née du sexe masculin parce qu'il y a une erreur sur mon acte de naissance. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour l'instant, on est en 1758. Du coup, je mettrai bien un samouraï dans mon affaire. Je crois qu'il y en a eu jusqu'au 19e siècle, des samouraïs. J'y connais rien. On est en 1758 et on a un samouraï amputé par le futur. Enfin, en 1758, il serait plutôt grossi par le passé. Dodu dans ses côtes. Aussi, je l'imagine un peu triste. Ou du moins perplexe, anachronique. Un peu comme l'on se sent tout à fait déplacé dans certaines assemblées. C'est ainsi que j'imagine l'anachronie en sensation. On est en 1758, avec un samouraï dans une armure, comme la carcasse d'un porc mort, et il est triste. Je l'assieds sur un muret. On est en 1758. Mozart, il a 2 ans. Jean-Baptiste Carrier aussi, il a 2 ans. Si vous ne le connaissez pas, Jean-Baptiste Carrier, il a noyé plein de gens à Nantes pendant la Terreur. Bon, c'est pas le sujet. Mais ce qui est amusant, c'est que Léopold Mozart, le père du précédent, à l'année de sa naissance, il a écrit une symphonie, Le mariage paysan, qui utilise la vielle à roue et la cornemuse. Et ça, c'est vachement rare de l'entendre ainsi. Parce que ça veut dire qu'on mélange de la musique savante et un instrument traditionnel. Après, il y a eu PDQ Back. Camille de la Cornemuse. PDQ Bach, c'est le 21e fils fictif de Bach, inventé par Peter Schickele. On l'entend là tout de suite. PDQ Bach, donc le 21e fils fictif de Bach, y boit comme un trou et y met de la cornemuse dans son coffre de classicisme. C'est l'avantage de la fiction. Parfois, elle est presque aussi bien que la réalité, et on peut tout y mettre. Comme moi, avec mon samouraï anachronique, malheureux, assis sur un muret en 1758, avec, dans le lointain, un air de cornemuse avant-gardiste qui mélange le moderne, le traditionnel, le profane, le sacré. Par contre, en 1758, là où j'étais pas du tout certaine de mon coup, enfin de manière générale, je suis pas trop certaine de mon coup en ce qui concerne cette histoire digressive, c'est que pour moi, l'existence du latex au milieu du XVIIIe siècle, ça me semblait anachronique, parce que pour moi le latex c'est du pétrole. Mais en fait le latex c'est de la pure botanique, comme le caoutchouc. C'est un suc visqueux, coagulable, d'aspect laiteux sécrétée par certains végétaux qui s'écoule lorsqu'on brise la tige ou les feuilles ou après incision dans le tronc. On peut lire dans la suite du traité de l'alcaeste de Van Helmont de 1706 que le latex vient du latin latex, liqueur liquide, et c'est le suc propre à l'euphorbe et à quelques autres plantes. L'euphorbe, c'est ces petites plantes qui poussent comme des boulons et qui résistent à l'air de la mer. On en voit partout en ville. Pas que, mais sur les parterres des ronds-points, pas mal. Je sais aussi qu'à Saint-Nazaire, il y en a sur le toit du bunker, du blocos. L'euphorbe, on l'appelle aussi le lait du diable. C'est d'ailleurs étonnant qu'il y en ait partout dans l'espace public, parce que l'euphorbe, c'est une plante toxique. La plante, elle contient un liquide irritant pour les yeux, la peau, la bouche. Pour les yeux, la peau, la bouche, toxique quoi. En nettoyant son parterre de plantes vivaces, la mulhousienne Liliane Barberger a reçu une projection de latex d'une euphorbe. Elle a failli perdre l'œil gauche. Le jardin de Liliane Barberger est situé dans le quartier Brühlstein à Mulhouse. Elle entretient régulièrement les parterres de fleurs et plantes autour de sa maison. Sauf qu'un jour de mai, une projection de latex d'une plante qu'elle venait de couper, une euphorbe, a failli lui coûter un œil. J'ai voulu témoigner car je ne veux pas que cet accident touche d'autres passionnés du jardinage et surtout pas les enfants qui jouent dans les jardins, entame Liliane Barberger, assise devant un impressionnant stock de médicaments. La suite de l'article est réservée aux abonnés de l'Alsace. Et je ne suis pas abonnée à l'Alsace. Mais je peux vous citer l'euphorbe autrement. Regarde plus près, au pied de la colline, ce grand euphorbe. Brise ses rameaux et suce tes doigts. Et puis tu resteras tout étendu. Tu ne sentiras plus rien. Tu ne seras plus rien. Ça, c'est Flaubert dans La Tentation de Saint-Antoine. Mais plante-risque.info nous dit que les signes cliniques de l'euphorbe, c'est, en cas de contact avec la peau, des rougeurs, une sensation de brûlure et des cloques qui peuvent apparaître de 8 à 12 heures après le contact. En cas d'ingestion, une brûlure, une salivation excessive et ou un gonflement de la gorge sont possibles. En cas de projection dans l'œil ou de contact de la main avec l'œil, un gonflement des paupières, des douleurs intenses, une rougeur, voire une atteinte plus grave de l'œil peuvent être observées. Brise ses rameaux et suce tes doigts. Et puis, tu resteras tout étendu. Tu ne sentiras plus rien. Tu ne seras plus rien. J'ai voulu témoigner car je ne veux pas que cet accident touche d'autres passionnés du jardinage. Et surtout pas les enfants qui jouent dans les jardins. Brise ses rameaux et suce tes doigts. Et puis, tu resteras tout étendu. Tu ne sentiras plus rien. Tu ne seras plus rien. La Tentation de Saint-Antoine a été publiée en 1856. Mais nous, on est toujours en 1758, avec notre samouraï qui attend. J'aime beaucoup cette idée de plante toxique. Je trouve qu'elle lui va très bien. Donc il pourrait tenir dans une main une tige de forbes avec cette absurde cornemuse en fond d'air, comme dans l'attente d'une mort absurde programmée avec 2 siècles d'avance. En fait, le caoutchouc, le latex qui vient des sécrétions végétales, était utilisé depuis belle lurette par les Mayas, par les Aztèques. D'ailleurs, caoutchouc en quichua, ça veut dire arbre qui pleure. En Europe, on a mis plus longtemps à se rendre compte que cette matière collante et dégoulinante, ça pouvait servir à plein de choses. On a commencé par fabriquer des gommes. Puis après, on a enduit des ballons pour s'envoler. Et puis après encore, on a fait des pneus. Charles Goodyear. Lui aussi, il a eu une vie de misère, de solitude et de poumons grignotés. Mais aujourd'hui, Goodyear, moi ça me fait penser à Amiens et aux 1173 salariés licenciés en 2014. Mais ça, notre samouraï, il s'en fout. Nous sommes en 1758, au Japon, c'est l'ère Tenmei. Il y a un samouraï, il y a un air de cornemuse grotesque ou génial joué dans le lointain. Il y a un samouraï dans sa grande armure peu confortable qui est assis sur un muret. C'est un muret en briques rouges, comme ceux qu'on peut voir dans le nord de la France ou bien en Angleterre. En fait, je pense à Humpty Dumpty, le personnage d'Alice au Pays des Merveilles. C'est un personnage en forme d'œuf, avec des gros yeux au milieu et une redingote, si je me souviens bien. Il est assis sur un muret. Je ne sais plus bien ce qui lui arrive, mais je crois qu'à un moment, il tombe et qu'à ce moment, son crâne d'œuf s'en trouve fendillé. Je trouvais ça horrible quand j'étais petite. Mais je me demande si l'œuf était pas un peu diabolique aussi. Ceci dit, Lewis Carroll, avec son mélancolique air de Chopin, je l'imagine bien, lui, utiliser dans son quotidien une pince à glaçons. Pour pas se mouiller les doigts, ni les refroidir. Donc, nous sommes en 1758, au Japon. Il y a un air de cornemuse grotesque ou génial joué dans le lointain. Il y a un samouraï dans sa grande armure peu confortable qui est assis sur un muret, comme Humpty Dumpty. Il y a dans sa main gauche une tige de forbes toxique et dans sa main droite une pince à glaçons. Il a les pieds qui ballent, il a les pieds ballants. Du coup, ça lui donne un air un peu ridicule ou du moins vulnérable. Si on s'éloigne, si on prend un peu de hauteur, derrière lui, il y a des arbres. Des sols pleureurs. Des pins. Une forêt. Avec un vent très doux, qui déporte un peu le son de la cornemuse et qui joue un peu avec la plume qu'il y a sur son casque. On entend bruisser dans les arbres. Il y a des sols pleureurs, des pins, des cerisiers, des chênes, des hêtres, des érables, des cèdres, des camélias. Une forêt, quoi. Comme une mer d'arbres. C'est comme ça qu'on appelle la forêt d'Aokigahara, près du mont Fuji au Japon. On l'appelle aussi la forêt des suicidés. Elle a poussé sur une énorme coulée de lave, alors le sol est tout tortueux et le feuillage très épais. On l'appelle la forêt des suicidés parce qu'elle est connue pour les centaines de personnes qui vont suicider là-bas, chaque année. Et parce qu'on dit qu'il y a un fantôme très triste qui erre dans la forêt. Apparemment, à l'entrée de la forêt, il y a un panneau qui dit « Bon non, réfléchis, il y a peut-être des choses qui en valent la peine, puis tu peux appeler ce numéro. » C'est pas formulé comme ça, mais c'est quelque chose dans cet esprit. On peut imaginer que le fantôme qui erre très triste, c'est mon samouraï en attente des siècles. Ou alors, c'est Charles Goodyear qui gratte les arbres pour en récupérer un peu de latex et construire plus de pneus, plus de pneus, plus de pneus. Je sais pas trop parce que j'ai pas vraiment de fin à mon histoire qui n'en est pas vraiment une. Mais ce qu'on peut retenir de l'association du latex, de la pince à glaçons et de la cornemuse, c'est qu'ils portent en eux une assez grande mélancolie, pas mal de décès tragiques, une certaine élégance bourgeoise, et puis que d'une anecdote administrative, on finit par errer dans une forêt, avec le fantôme de Charles Goodyear. Humpty Dumpty, le 21e fils imaginaire de Bach, et le père oublié de Mozart. C'était Anne-Line et Monsieur,
Pierre et Madame,
Latex,
Cornemuse
et Pince à Glaçon, toujours en direct et toujours aussi peu préparés.